À la question de Raphaël.
Que répondre aux gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu du tout?
Du tout.
Dire.
Il faut qu'on enlève la buée des yeux.
S'obstiner à dire non, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas
Ah
Dieu,
ouais,
pour
mais
leur dire rien que
bon,
ça?
je te donne la bonne réponse. Je veux dire, c'est extrêmement clair, maintenant. De façon la plus claire, à mon avis, de montrer que Dieu existe, c'est tout simplement le peuple d'Israël. D'où d'ailleurs la haine absolument irrationnelle, anormale, extraordinaire,
Gratuite.
fantastique et gratuite que beaucoup de goyim ou beaucoup de gens ont envers le peuple d'Israël. La Gemara dit, Chazal disent que ceux qui ont la haine d'Israël ont la haine de Dieu. La motivation de la haine d'Israël, c'est en fait la haine de Dieu. C'est des gens qui sont enracinés dans le mal. Le mal, par définition, est la haine du bien. Donc ils ont la haine de Dieu et ils ont la haine d'Israël parce que ça marche ensemble. Et pourquoi quelque part? Pourquoi ils ont cette haine? Parce que le peuple d'Israël, par son existence même, prouve que Dieu existe. Il n'y a aucune explication logique qu'un peuple hors de sa terre, depuis 2500 ans, dispersé, même pas ensemble, de façon continue, chaque génération on se lève pour l'anéantir, comme on dit le soir du Seder, ça a été écrit cela il y a 2000 ans, et ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, c'est extraordinaire. Pas une génération, t'as pas un type qui se lève, écoutez les potes, j'ai une nouvelle idée. Quoi, on va tuer les Juifs. Ah tiens, t'es pas au courant. C'est extraordinaire. À tous les coups, il disparaît et nous on est là. Et après, la Torah a annoncé il y a 3400 ans qu'on reviendra en terre d'Israël. À la fin de l'exil, on revient en terre d'Israël. Et le Talmud a annoncé il y a 1400 ans, la terre sera aride et va donner ses fruits. Et on prend après les autres textes, etc., de tout ce qu'on est en train de vivre, etc. Tu vois ça, alors, je comprends pas. Ah, c'est clair, c'est tout. Ça suffit, à mon avis.
Mais il y en a qui répondent que...
Ah, c'est ça qui m'intéresse, la répartie.
Le fait que sans arrêt, on ait voulu nous détruire, ça nous a renforcés, en fait.
Ok, mais beaucoup de peuples auraient voulu continuer à exister, et n'ont pas existé. Je veux dire, c'est vrai que le fait... d'être sans cesse confronté à des gens qui veulent nous détruire, nous donne certainement une force de résistance plus grande. Mais c'est insuffisant pour dire que grâce à ça, on a tenu. On aurait dû disparaître, point barre, je ne comprends pas. On a un peuple. Moi, je suis juif maintenant en exil, d'accord? Ça fait 1500 ans, on va dire, il y a 500 ans, il y a 1500 ans qu'on nous poursuit. Ok, on arrête l'histoire, on se convertit, point barre, terminé. Pourquoi continuer? Et beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. L'assimilation, la disparition physique. En deux mots, tu as beaucoup de peuples qui ont été expulsés de leur terre durant l'histoire. Ça existe. Que sont-ils devenus? Ils ont tous disparu. Pourquoi nous, on a tenu? Pourquoi, à notre propos, il est écrit qu'on va tenir? Et le bouquet, à la fin, on revient sur notre terre. Tiens pas la route. Et pourquoi c'est une viscérale, je veux dire, c'est beaucoup trop. S'il y avait des guerres partout et des haines, tout, bon, alors, une fois il y a une guerre, une fois il y a une paix, alors ça serait normal. De temps en temps on est en guerre, de temps en temps on est en paix. Mais là, c'est continu, sans cesse contre nous. Prends aujourd'hui l'ONU. Je ne sais pas combien de décisions il y a contre Israël, sans cesse. L'union des peuples contre nous. Il y a d'autres peuples sur Terre qui ont fait des problèmes. L'année passée, bordure protectrice, on nous canarde avec des missiles, des 1000 missiles. On voit 2 missiles, que la Corse décide un beau jour, on veut l'indépendance corse. Alors on voit quelques missiles sur la France. 3 missiles. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est les porte-avions qui font le débarquement en Corse, d'accord? Et que quelqu'un ose piper mot. Maintenant, on leur a donné leur indépendance, on s'est retiré de Gaza, c'est à eux. On leur fournit l'électricité, on leur fournit tout, d'accord? Ils nous canardent pour la paix. Nous canard avec des missiles. Aidez-moi! On avertit, arrêtez, on va vous rentrer dedans. Il continue. On passe avec des tracts dans les maisons. Attention, cette maison va être bombardée bientôt. Quittez, partez. Quel pays fait ça? Et après tout, on nous attaque comme étant, je ne sais pas quoi, attaquer le Hamas. Non. Attaquer Assad. attaqué les rebelles en Syrie. Ils ont égorgé combien de civils là-bas qui sont morts? 200, 300, 400 000. Le monde n'a rien à faire. Israël, ça intéresse tout le monde. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a aussi un rapport tout à fait non proportionnel entre notre population, on est 14 millions peut-être, 13 millions, pas plus, et les proportions dans lesquelles on parle de nous, tout à fait anormal. Il y a eu un sondage il y a quelques années en Amérique, on a demandé aux Américains quelle est à votre avis la superficie de l'État d'Israël. Les réponses étaient égales à la France, ça veut dire 60 fois plus grand. Bon, il y a bien un Américain qui gouverne pour un atlas dans sa vie, qui a pris un peu de géographie, qui a vu ce que c'est. Donc il y en a bien qui ont répondu la bonne réponse. Pour arriver à une moyenne comme la France, il faut que l'autre moitié ait dit « grand comme toute l'Amérique ». Donc ceux qui n'ont pas appris dans un bouquin c'est quoi Israël, ils s'imaginent qu'Israël c'est comme toute l'Amérique. Tellement on parle de nous. Et tous les gens qui vont en Israël pour la première fois de leur vie, ils viennent, ils voient Jérusalem. Qu'est-ce que c'est? Un arrondissement de Paris. Un patelin. Rien. D'aller d'un bout à l'autre du pays, quand il n'y a pas de bouchon au milieu de la nuit, ça prend une heure. En roulant bien. D'accord, mais fais-le en France ou fais-le en Suisse, ça marche pas. Même en Suisse. Au Liechtenstein, peut-être, ouais. Oui.
Est-ce que, en quoi c'est notre rôle, nous, les petits jeunes comme ça, qui sont de revenir à la Torah, de faire du kirouv dans le monde, on n'a pas d'autre chose à s'occuper?
Qui veut lui faire du kirouv?
Je sais pas, il pose des questions, voir aujourd'hui.
Non.
Si quelqu'un il vient de dire Dieu n'existe pas, qu'est-ce que je dois dire?
Non, c'est marqué Damash, la picorce, sache quoi répondre à picorce, au type non-croyant.
Ah, des gens qui toi tu vas aller voir, des gens qui t'attaquent.
Ouais, en plus.
Mais moi je réponds pas, moi, lui.
Pourquoi pas?
Ouais, il vient, il dit c'est un
bon
Dieu pour
venir. Voilà, ben. Peu... Rentre-lui dedans. On va pas dire maintenant de quitter les bancs de la yeshiva et aller faire du kirouv. Mais si maintenant quelqu'un vient. Chazal en dit dans Pirkei Avot, Machin de la piquance, sache quoi répondre aux non-croyants.
Ouais, moi j'ai une question.
Et en plus, tu as les arguments, pourquoi pas? Et en plus, toi, tu feras tchouva, c'est encore mieux.
Je vais juste apporter une nuance à la question. Si quelqu'un il vient, il te dit maintenant, par rapport au gouvernement israélien,
oui.
Où il te dit, c'est pas normal que. Il est né ici, ça veut dire que. Il est pas né dans une famille religieuse du tout. Pour lui, la religion, c'est à côté. C'est quelque chose d'à part. Mm-hmm. Et c'est même pas, ça le touche pas. Mm-hmm. Parce qu'il est juif de nom, c'est tout. Et il dit, pourquoi moi maintenant, je dois me marier à la Rabbanout? Je ressens pas ça. Pourquoi je vais venir à Rabbin, j'y crois pas. Je veux me marier civilement. C'est la question en Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut lui répondre à quelqu'un comme ça? Parce que, en vrai, dans la réalité des choses, c'est une médina démocratique. Lui, il est en dehors de ça. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? C'est quelqu'un que, même si tu lui réponds des juifs, des trucs, mais lui, moi, j'y crois pas, moi.
Très bien.
Il te dit que tu fais adatit.
Ok, regarde. Nous, ça nous arrangerait très bien d'aller comme lui. On va faire deux parties du peuple de l'État d'Israël. Les juifs et les autres. On fait nos mariages. Et tous ceux qui viennent, qui sont pas chez nous, ben, ils sont hors du coup. On fait nos enterrements. Enterrement juif là-bas, tu auras le cimetière non-juif. Tu auras tout différent. Eux-mêmes ne sont pas d'accord. Ils veulent, je ne sais pas pourquoi, ils veulent appeler cet État juif. Ben Gurion, le sionisme, a voulu que cet État soit un État laïque, mais avec l'étiquette juive.
Je parle de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est même okay. Les accords de paix, ils sont en train de dire pourquoi Netanyahu il veut à tout prix qu'en face, ils reconnaissent que ce soit le peuple juif. Pourquoi il m'adguiche ça? Moi, je leur explique, c'est très important.
C'est important
pour nous. C'est le but même de la nation.
Si nous, on se sent juif, on a une partie d'identité juive, alors on veut que cet État soit juif, on veut qu'il y ait une perduration, on le dit comme ça, que le peuple juif, on veut que le peuple juif continue à exister. On a un peuple qui a 3500 ans, on veut que ça continue, on comprend qu'on a une mission, qu'on a un but, qu'on a une identité. Quelqu'un qui n'a pas cela, en France, il serait complètement assimilé. Bon, ici, il s'avère qu'il est en Israël, il vit avec d'autres juifs. Ok, alors je comprends son point de vue. Lui, il se dit, je suis goy, en deux mots. D'accord? Ok, je veux vivre comme un goy. Mais tu es dans un État juif. Nous, le monde religieux, ça l'arrangerait quelque part, parce qu'on finit tous nos problèmes. Mais on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est la responsabilité commune de tout le peuple juif. Mais les juifs non religieux, dans leur majorité en Israël, ceux qui ne sont pas de l'extrême gauche dont tu parles, ils ne veulent pas dire je suis goy. Non, moi je suis juif. Juif modéré, juif d'identité, je fais partie d'un État juif. Il y en a beaucoup qui disent cela. Eux, quelque part, ils ont un problème. Celui qui dit moi j'ai rien à voir avec le peuple juif. Ok, au moins tu es cohérent. Mais quelqu'un qui dit « je suis juif, mais je ne veux pas pratiquer » ou « je veux à moitié », t'as un problème, mon cher ami. Dans quel camp tu es? T'es goy ou t'es juif? Donc je peux comprendre celui qui dit qu'il veut être goy. Je ne suis pas d'accord. Et nous, on va tout faire pour essayer de oui, l'inclure un peu plus, parce qu'il est juif, en fin de compte, on fait partie d'une unité, il y a une responsabilité collective, d'accord, du peuple juif. On est tous à la base, on est une seule âme. C'est ça, le premier homme. Mais au moins, lui, il est cohérent. Je peux entendre cela. Je lui dis « ok, mon cher ami, qu'est-ce que tu veux ?» Ok, la démocratie, t'as des gens qui pensent comme ça, des gens qui pensent autrement. Alors, dans la démocratie, tu vas voter pour ce que tu veux, et puis on fera d'après la majorité. Moi aussi, ça m'embête. Moi, j'aurais bien préféré qu'on ait un peuple que des gens religieux, point barre, tous ceux qui ne veulent pas, out. Alors, je comprends que je peux pas faire ça. On vit ensemble. Ok, alors, la démocratie, c'est le moyen le plus juste pour le moment de vivre en communauté sans s'entretuer. Mais dans ta chaîne. Oui.
Ah, mais l'argument n'est pas très logique. Parce que c'est comme si je vais en France et je leur dis je ne veux pas marier un mairie, je ne crois pas à vos valeurs, que leur ou pas. Mais je n'ai pas droit au droit, c'est pas ce pays, il est comme ça, on ne veut pas.
Mais quelqu'un qui habite en France, il dit moi je vais faire autrement. Ben, mon cher, mettez hors la loi.
Ouais, c'est pareil,
ici, donc il y a une loi. La loi, elle est décidée d'après les lois démocratiques. Et les dirigeants de l'État, par la démocratie, ont décidé que ce serait un État avec connotation juive. Connotation juive.
Lui, il ne respecte pas.
Pardon ?
Il parle comme ça qu'il ne veut pas se marier à la.
Lui, il respecte pas, mais il se plaint.
C'est le pays.
C'est le pays. Ah, je n'ai pas compris ce que tu dis.
Non, ce qu'il dit, c'est dans un genre, en gros. C'est...
Il dit je veux pas suivre la loi du pays.
Ouais, et avoir les droits d'un quelqu'un de marié, c'est dans un genre.
Avoir les droits de quel mariage? Non, je veux un mariage laïque.
Ouais, mais donc, c'est pas le mariage reconnu ici, quoi.
C'est pas reconnu par l'État, mais il peut se marier laïque. Beaucoup de gens vont en Chypre et se marient là-bas. Ouais. T'es dans le registre de Chypre.
Il faut changer de pays, quoi. Faut dire, il y a la France.
Ouais, mais dis-moi, je veux pas. Moi, je veux rester ici. C'est mon pays. J'aime bien les cocotiers. J'aime bien la plage à la Tania. Mais je veux pas vivre en tant que juif. Ok, mon cher ami, tu vis dans un pays qui s'appelle comme ça. Maintenant, le problème est, il est où le problème? C'est que les gens intelligents, ils savent voir ce qui va se passer dans le futur. Et ils voient deux choses. Un, qu'il y a beaucoup de balais de chouva, beaucoup de gens qui reviennent à Torah. Et d'habitude, la crème. La crème à tous les niveaux. Deuxièmement, le monde orthodoxe fait beaucoup d'enfants. Donc, ils voient que eux. Moi, je vois dans ma famille. Moi, je viens d'une famille, à la base très religieuse, mais ils ont tout plaqué. D'accord? Par quelques-uns par-ci, par-là. On est maintenant, on va dire, 30-40 ans après que j'ai commencé à faire tchouba. Hein. Qu'est-ce qui se passe? La génération d'après. Eh bien, dans les membres orthodoxes de la famille, ben, ils ont. 7 à 8 enfants en moyenne, qui eux aussi vont faire 7 à 8 enfants. Ça veut dire qu'ils sont déjà combien? Ils sont déjà une cinquantaine par grand-père, d'accord? De l'autre côté, ils ont fait un ou deux enfants, qui vont faire un ou deux enfants, et même pas toujours. Très souvent, ils divorcent aussi, beaucoup de divorces, d'accord? Donc, au bout de 50 ans, du côté orthodoxe, tu auras 50 enfants, du côté laïque, tu auras 2 enfants. Maintenant, tu multiplies ça pour tout le monde orthodoxe, ils sont en perte de vitesse. Et ils comprennent que tôt ou tard, il y aura aussi une majorité d'orthodoxes. Ça en fait extrêmement peur. Parce que vu qu'on fonctionne d'après la démocratie, une fois qu'il y a une majorité d'orthodoxes, ça devient un pays orthodoxe. Pour ça qu'il y a une bataille terrible, la bataille qu'il y a eu dernièrement, avant les nouvelles élections, donc la cadence d'avant, où ils ont tout fait pour casser le monde religieux, en envoyant à l'armée, etc. Parce qu'ils savent que le seul moyen d'enrayer le monde religieux, c'est l'armée. On les met 3 ans dans un melting pot comme ça, c'est avec tout le monde, etc. Là-bas, ils vont sortir les Israéliens moyens, d'accord? Non-croyants. Beaucoup deviendront là-bas non-croyants. Bon. Et le monde orthodoxe se bat. C'est pas pire que les décrets de l'Inquisition ou l'Antiochus, etc. Ça aussi, c'est pire, excusez-moi. Parce que lorsqu'il y a un décret d'anéantissement physique, alors le type, il se lève, il se bat. Mais quand il s'agit d'un décret d'anéantissement spirituel en douce, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Parce qu'on s'habitue lentement à l'idée. C'est pas si grave, etc., etc., etc. Et hop!
Je parlais avec une autre, il n'y a pas très longtemps de ça, je parlais un petit peu de la Shoah. Je parlais un petit peu d'histoire du peuple juif, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de la religion hindouiste qui a apparemment 4000 ans, 4500 ans, 5000 ans, et qui est une des plus grandes religions au monde aussi, je crois qu'il y a des millions.
Ouais.
Et du coup,
coup, j'ai pas trop su quoi.
Mais qu'est-ce qu'il faut. J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que j'en fais?
L'ancienneté du jeu.
Bon, c'est une vieille religion, et alors, où est le problème?
Il est plus vieille, entre guillemets, qui serait plus vieille.
Oui, il se peut qu'il y a des religions plus vieilles du judaïsme qui tient encore la route, mais ce n'est pas comparable au peuple d'Israël qui était en exil de sa terre pendant 2500 ans. Comment un peuple hors de sa terre continue à pratiquer la même religion, la même identité, la même langue, tout? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand je parle maintenant du destin spécifique et spécial du peuple d'Israël. Mais qu'un peuple continue à pratiquer la même religion dans un pays, j'ai pas de problème avec ça.
On reconnaît la religion hindouiste qui a 5000 ans, 4000 ans.
Si on la reconnaît, nous, bon, on va bien reconnaître qu'elle existe. Alors, si déjà, tu veux déjà un peu plus, il semblerait qu'elle provient du judaïsme. De qui? De Avraham Avinu. C'est marqué qu'Avraham Avinu, il a donné des cadeaux aux enfants de ses concubines. Il y avait une seule concubine, c'était Hagar, qui avait un surnom, Ktura. Et après, elle lui a fait à part Ishmaël encore 6 enfants. C'est marqué qu'il a pris ces 6 enfants-là, ils les ont envoyés en Orient, vers la terre, vers les terres d'Orient. Il leur a donné des cadeaux. Khazal, c'est quoi le cadeau qu'il leur a donné? Shem Tum'a. Le nom de l'impureté, ça veut dire les forces impures. Avraham possédait, c'est un homme d'une carrure spirituelle énorme. Mais il avait en lui beaucoup de choses. Il a voulu séparer les forces impures, les donner à une certaine partie de sa descendance, pour après que de lui sorte Yitzhak, et Yitzhak et Yaakov, d'accord? Yitzhak est sorti ensuite Esav, une sorte de purification de la pensée, et donc pour finir sorti Israël. La troisième génération, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov c'est Israël. Avraham prend ses enfants, les envoie vers l'Orient, dans les terres d'Orient, et leur donne des cadeaux. Quel cadeau? Chazal on dit les forces impures, ça veut dire une puissance, une force, une religion. Et on sait que les fakirs ont des puissances, ils ont des pouvoirs. Mais ça provient du côté négatif, du côté impur. Et Avraham voulu que ce soit hors du peuple d'Israël.
Loin.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la caste de la religion hindouiste qui possède le savoir s'appelle les brahmanes. C'est quoi brahman? C'est quoi le nom d'Abraham? Donc ça vient, il y a lieu de croire que ça provient d'Abraham. D'où peut-être l'éternité, enfin l'ancienneté de cette religion qui tient encore la route, bien qu'en soi, ce ne soit pas une chose qui soit extraordinaire, qu'une religion tienne depuis 5000 ans, ça me dérange pas. Ce qui est spécifique et spécial et qui montre qu'il y a ici une providence extraordinaire, c'est le peuple d'Israël, sa survie dans les conditions d'exil. C'est ça qui est extraordinaire.
Et Abraham, il a combien d'années
Abraham, je veux dire exactement, ça fait 3000. Abraham est né en 1948. Maintenant, on est en 5775. 5775 moins 1948. Ça fait grosso modo, on va mettre 5007 moins 2000, ça nous fait 3007. 3700 ans environ.
Donc ils disent que la religion
de l'Église
a plus de...
Ils disent, ok, ils disent.
Avant, en fait.
Oui, ils disent ce qu'ils veulent. Ok, donc c'est pour les... D'ailleurs, tu peux lui dire à cette jeune dame, si elle veut, il y a un bouquin extraordinaire, écrit par un monsieur extraordinaire, c'est le Rav Akiva Tatz, qui habite à Londres, et qui a écrit un livre entier. C'est en fait, les lettres, ça s'appelle Lettres, un juif hindouiste. C'est un juif hindouiste qui a commencé à lui écrire. Et l'autre lui répond. Donc c'est un débat entre l'hindouisme et le judaïsme. C'est extrêmement profond, grand, beau. Et évidemment, à la fin, il a fait tchouva.
Il est en français.
En français. Ah ouais. Juif, hein. Non. Juif, un lettre bouddhiste, pardon. Juif, lettre un juif bouddhiste. Lettre un juif bouddhiste de Akiva Tatz. Très recommandable, très recommandé. Ok, monsieur, on s'arrête là-bas. Ou Hadonai, l'homme va m'aimer.